Donc maintenant, nous sommes totalement live. Bonjour à tout le monde, hein. Bienvenue sur le balado Scepticisme scientifique. Aujourd'hui, on a de nouveau un article, on va discuter d'un article d'une revue scientifique, de la revue scientifique Scepticisme scientifique. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Olivier Certenard comme invité. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, on va discuter de son article qui s'intitule Scientisme et anti-science en 2024 ou la disparition de la demande épistémologique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, salut Goulevent
Salut.
et salut Renaud.
Et à vous.
Voilà, alors c'est un article, on va dire, de philosophie, hein. Je propose peut-être que tu te présentes brièvement avant de parler directement de l'article. Qui es-tu? Même si tu es quand même déjà un petit peu connu dans la communauté sceptique, je pense, mais
Ok,
malgré
je
tout.
m'attends. Oui, donc Olivier Certenard, merci déjà pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de venir ici discuter de ce texte. Donc, si j'ai bien compris, c'est une présentation personnelle. Du coup, là, moi, je suis juste simplement professeur
Oui, voilà, quel est ton
de philo
background?
et sciences, en fait, ici à l'université, je dis ici à l'université de Namur. J'ai un background à la base de physicien. J'ai fait un master à l'époque, c'était encore la licence qu'on appelait ça en Belgique, en physique avec une orientation plutôt astro. J'ai fait un peu d'astérosismologie à l'époque avant de me tourner vers la philo, en fait, et donc vers, assez naturellement, parce que d'où le titre de l'article, vers de l'épistémologie, hein, donc ce qui étudie essentiellement la connaissance en général avec une orientation en ce qui me concerne plutôt la connaissance scientifique, donc ce qu'on appelle la philo des sciences, et après un parcours, je dirais, académique relativement standard, hein, le master, le doctorat, puis toute la ronde des postdocs. J'ai atterri ici depuis 3 ans, un peu plus, à l'UNAMUR, donc où j'enseigne maintenant, essentiellement, exclusivement en fac des sciences, en fait, parce que l'UNAMUR a la particularité d'avoir un département de philo en fac des sciences, pour donner du coup les cours d'histoire des sciences, d'épistémologie, de philo des sciences, mais aussi d'argumentation, de logique, aux futurs scientifiques. Voilà, c'est un peu de là que je viens.
Très bien, écoute, oui, donc, enfin bon, ton article, évidemment, je l'ai lu avec intérêt. C'est vrai que tu vas distinguer deux positions antagonistes, la scientiste et anti-science, pour un peu expliquer comment enfin, le discours qu'on tient dans la. C'est un peu ton diagnostic sur la manière dont les médias. La raison pour laquelle les médias parlent de la science, de la façon dont ils le font, pour toi, ça a des racines plus profondes, finalement. Mais ouais, peut-être résume un peu ton article et voilà, dis-nous un peu qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire aussi, parce que c'est pas forcément.
En fait, j'avais réfléchi, mais justement pour ce live, quelle était la genèse, un peu le contexte de la réflexion de l'article. Je m'en suis souvenu, du coup. C'était en l'occurrence, on avait lancé il y a 3 ans avec des collègues ici à l'université, donc surtout des collègues philosophes des sciences et scientifiques, un séminaire entre nous de vulgarisation philosophique où on avait décidé d'aborder la question de la confiance dans les sciences. Et la question était assez large, mais c'était grosso modo, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire confiance dans les sciences? Pourquoi est-ce qu'on devrait leur faire confiance? Et est-ce qu'on leur fait confiance, oui ou non? Ça tournait un peu autour de ces questions-là. Et on a assez vite glissé, et ça, c'est ce que je fais dans l'article assez vite au début, parce que j'amorce article avec une question d'abord sur la question de la confiance dans les sciences, on a glissé assez rapidement vers la question de la perception des sciences. Et on a réalisé, et ça je pense que c'est une observation empirique, c'est pour ça que l'article s'ouvre là-dessus, hein, c'est peut-être un peu sec d'ailleurs comme introduction, je réalise, sur des rapports journalistiques notamment, et des rapports de différents observatoires qui montrent que quelque part, et ça c'est je pense un constat assez partagé, mais que le grand public, et je dis grand public, ça peut être vous et moi, hein, je veux dire, mais c'est tout le monde, grosso modo, dans la sphère publique, peut avoir grosso modo une certaine mécompréhension de ce à quoi les sciences ressemblent, ou de ce qu'elles devraient être, en fait. Mécompréhension qui a été assez bien montrée lors de la crise sanitaire, qui était du Covid récemment, qui a été un bon laboratoire pour ça, où on a pris conscience de quelque chose qui existait déjà, à mon sens, avant, mais qui a un décalage, je dirais, entre, alors j'appelle ça la réalité des sciences, un peu pour en discuter, c'est quoi la réalité des sciences, mais donc le fait que les sciences sont ce qu'elles sont, même si c'est un objet relativement vague, et comment elles sont perçues par le public. Et donc je crois qu'il y a un décalage assez fort, et la question qu'on s'est posée dans ce séminaire, donc qui est la question qui motive l'article par après, qui est une réflexion plus personnelle, ça a été d'essayer de proposer une hypothèse explicative de ce décalage. Qu'est-ce qui fait, fondamentalement, structurellement, qu'on a l'air d'être condamné à ce que les gens, au sens large, les profanes, non scientifiques essentiellement, comprennent assez mal les sciences. Et je pense que c'est un phénomène qui est clairement multifactoriel, c'est un phénomène très complexe, il y a beaucoup de couches, hein, il y a clairement des enjeux sociaux, politiques, culturels, divers et variés, dont beaucoup m'échappent, moi en tant que philosophe des sciences, mais il y a au moins, et ça c'est ma casquette épistémologue qui me dit, mais il y a au moins un fil sur lequel on peut tirer, qui est le fil de voir dans quelle mesure il y aurait des raisons épistémologiques, donc relatives un peu à la connaissance et à la nature de la connaissance scientifique, qui pourraient participer dans une hypothèse explicative de ce décalage entre réalité et perception des sciences. Et donc c'est une tentative un peu de diagnostic de pourquoi est-ce qu'on a ce décalage qui, je pense, provoque éventuellement des questions sur la difficulté de faire confiance ou non dans les sciences, à bon escient. C'est-à-dire que si on ne comprend pas bien l'objet envers lequel on est censé avoir confiance, ben ça trouble un peu ce rapport potentiel. Et donc le diagnostic, il est celui-là, hein. C'est un peu le jeu du scientisme et de l'antiscience qui apparaît dans le titre, c'est de se dire, mais il semblerait qu'on hérite culturellement dans nos sociétés, j'ai nos sociétés, c'est essentiellement ici en Belgique, mais je pense que c'est plus large, hein, nos sociétés démocratiques occidentales, on va dire grosso modo, mais on hérite quelque part culturellement d'un arrière-fond qui est polarisé entre deux pôles, hein, deux pôles qui sont des extrêmes caricaturaux d'un spectre plus large, évidemment, mais donc un pôle que j'ai qualifié dans l'article de cynique. Donc c'est cynique dans le sens que c'est un pôle qui a comme vocation de dissoudre la possibilité de connaître et de connaître scientifiquement. Alors il porte plein de noms, ce pôle, mais grosso modo c'est l'idée sceptique, sceptique au sens philosophique antique, pas sceptique au sens zététique, donc sceptique de la dissolution de la possibilité de connaître. C'est-à-dire il n'y a pas de vraie connaissance possible. Les scientifiques devraient arrêter de nous bassiner avec leur connaissance parce qu'ils n'ont pas de prétention particulière à la connaissance. Donc c'est soit qu'il n'y a pas de connaissance scientifique possible, soit au contraire que tout est connaissance, toute opinion peut s'ériger comme connaissance. Mais donc on casse un peu la frontière entre connaissance et simple opinion. Et de l'autre côté du pôle, hein, donc l'autre épouvantail, je dirais, qui se situe de l'autre côté, plutôt que j'ai appelé le pôle scientiste, qui est aussi un mot un peu valise, hein, pour fourrer toute une série d'attitudes qui sont plutôt là la sacralisation de la science, en disant qu'il n'y a que la science qui peut prétendre à de la connaissance, et en plus c'est une connaissance très solide, voire une connaissance avec un grand C, c'est-à-dire qu'on touche à des vérités inviolables, des faits scientifiques, et du coup si vous n'êtes pas d'accord avec nous, taisez-vous, c'est que vous êtes simplement dans l'erreur. Et donc je montre qu'il y a un peu cet antagonisme qui préexiste. Alors c'est un antagonisme qu'il faut comprendre au sens de... Ça existe dans les imaginaires sociaux, c'est quelque chose de culturel qui est là, hein, qui est diffus, qui est difficile à voir. Alors je pense produire des indices dans le texte qui montrent que cet antagonisme, il est présent, mais surtout que c'est pas parce qu'il est simplement au niveau des imaginaires et au niveau culturel qu'il n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'il n'influe pas dans la manière dont le débat, notamment public, sur les sciences peut se créer. Donc c'est clairement des caricatures, c'est clairement des épouvantails. Le pôle cynique et le pôle scientiste. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se revendiquent comme étant cyniques radicaux ou scientistes radicaux. Mais il n'empêche que cet antagonisme, je pense que c'est ce qui traverse un peu beaucoup de débats sur les sciences. Et pour avoir assisté déjà moi personnellement, mais je pense que vous êtes dans le même cas, à beaucoup de débats, ça peut être dans des cafés philo, dans des conférences de vulgarisation, n'importe où, où il est question de science ou de débats sur des enjeux scientifiques, la crise climatique, les vaccins ou tout ce qu'on veut, ben, ces deux pôles, ils réaccaparent bien souvent la parole. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un moment, ah ben non, ça a été prouvé scientifiquement, donc taisez-vous. Ou de l'autre côté, ben, de toute façon, les scientifiques, vous êtes tous des vendus, il n'y a pas moyen de pouvoir connaître quoi que ce soit parce que vous ne savez pas que vous êtes à la botte de ceci, cela. Et donc on va chaque fois voir réapparaître un peu ces deux pôles rhétoriques qui accaparent un peu malheureusement et qui, à mon sens, rend presque impossible la perception plus juste et plus nuancée des sciences, qui pourtant existe dans les cercles plus spécialisés, c'est-à-dire que dans les cercles scientifiques et dans les cercles de philosophie des sciences, bah évidemment, personne n'est scientiste et personne n'est cynique, on est plutôt dans une sorte d'entre-deux, où on arrive à ménager un petit peu, on peut gérer une position plus nuancée, qui en fait ne transparaît que très peu, à mon sens, dans les débats publics. Et d'où, c'est ce que j'appelle, j'arrive au deuxième sous-titre, hein, d'où la disparition de cette demande épistémologique, c'est-à-dire d'où, en tout cas dans la sphère publique, hein, je ne parle pas des débats spécialisés, il semble que ces deux pôles rhétoriques accaparent un peu toute la parole, et il n'y a pas beaucoup de place pour réinterroger, je dirais, au sens un peu plus subtil, quelle serait la place du discours scientifique, ou en tout cas quelle serait la réalité de la science dans une dimension un peu plus nuancée. Et je pense que, du coup c'est ça l'enjeu, la recommandation finale, et j'arrive à la fin de l'article, qu'arriver à réinstiller un peu cette demande épistémologique, c'est-à-dire qu'arriver à ce qu'on remette un peu dans la sphère publique, alors ça peut se passer selon différentes modalités qu'on peut discuter à l'école, dans la vulgarisation, dans les médias, que sais-je, un petit peu de nuance épistémologique pour justement casser la prévalence de ces deux pôles caricaturaux. Ben, je pense que c'est une manière, alors c'est pas la panacée, loin s'en faut, mais c'est une manière, c'est une petite pierre à l'édifice dans cette tentative de résorber le décalage entre réalité des sciences et perception pour que les gens puissent faire confiance éventuellement à la science en toute connaissance de cause, c'est-à-dire pas béatement ni en s'opposant farouchement, mais à la juste mesure de ce que la science est. Voilà, c'est grosso modo l'enjeu de l'article, je dirais.
Ouais, c'était un excellent résumé. oui, mais je pense que ça va. Oui, enfin, y a largement de quoi discuter.
J'ai peut-être une petite
Vas-y.
question naïve parce que comme c'est pas vraiment mon domaine, j'ai peur d'être un peu perdu à mesure qu'on va avancer dans la discussion. Donc là, j'en ai une un peu de béotien pour commencer. Mais justement, comme tu parlais de la genèse de l'article et que tu parlais un peu de la position du grand public et que tu répondais à des choses que tu avais vues dans les médias, mais que tu as également dit que tu étais enseignant à l'université. Je me posais la question de savoir si, dans ton expérience d'enseignant, C'est quelque chose que tu avais vu une évolution aussi justement, notamment comme tu étudies, comme tu enseignes en faculté des sciences. Est-ce que tu, depuis suffisamment longtemps pour avoir pré-Covid, Covid et post-Covid, qu'est-ce que tu as un petit peu vu? Est-ce que ça s'aligne avec
Exactement. Donc oui. En fait, c'est aussi une expérience personnelle. Alors, j'ai essayé de faire dans l'article que ce ne soit pas qu'une expérience personnelle, parce que c'est pas une méthodologie très sérieuse, mais c'est que ça colle avec l'expérience personnelle de moi et de tout et de la quasi-intégralité de mes collègues qui gravitent dans ce genre de milieu. C'est-à-dire que ouais, là, moi, ça fait ouais, une quinzaine d'années que j'enseigne de la philo des sciences à des philosophes parfois, à des scientifiques souvent. Donc, je suis un peu à cheval entre les deux. J'ai enseigné avant en fac de philo. Et c'est clairement quelque chose, donc cette espèce de pôle d'attraction entre le cynisme d'un côté et le scientisme de l'autre, c'est clairement aussi quelque chose qui se manifeste dans les auditoires à l'université. C'est-à-dire que les étudiants qui arrivent typiquement dans mes cours de philosophie des sciences, ben, je peux presque dire, rien qu'à leur manière de s'exprimer, s'ils sont plutôt d'origine scientifique ou plutôt d'origine philosophique, dans le sens où assez souvent ça s'aligne comme ça, pas toujours, mais ça s'aligne souvent comme ça. Mais que par défaut, les scientifiques en devenir, hein, qui sont donc, là, j'enseigne par exemple des étudiants de baccalauréat, ce n'est pas encore des scientifiques, mais ils ont souvent suivi des filières scientifiques dans le secondaire, donc ils ont déjà. Mais ils ont été du coup baignés dans une manière dont on leur apprend la science, qui est intrinsèquement scientiste. Donc c'est intrinsèquement l'objectivité est un absolu, c'est intrinsèquement la science trouve la vérité. Et ce n'est pas des choses qui sont complètement fausses, hein, ce que je dis ici, mais c'est des choses qui doivent être un peu nuancées. Et moi, mon travail en tant que philosophe des sciences, généralement, c'est de leur faire nuancer ça. Leur dire, ben, vous voyez toutes ces postures où vous sacralisez un petit peu la connaissance scientifique, et à certains égards, je suis un partisan de la connaissance scientifique comme étant quelque chose qu'il faut respecter et qui a de la valeur, mais pas la sacraliser indûment. Mais j'essaie de casser un peu cette mythologie scientiste. Mais ils arrivent généralement avec cette mythologie scientiste parce qu'ils sont le fruit de leur éducation. Et à l'inverse, quand j'enseigne plutôt à des philosophes, et je parle ici plutôt des philosophes généralistes que les philosophes des sciences, qui ont donc plutôt suivi une formation, on va dire, littéraire. Alors moi, je suis allergique à cette association philosophie avec littéraire. Je pense que c'est une erreur, mais bon, dans nos sociétés, ça reste comme ça. C'est-à-dire que les étudiants dont on hérite en faculté de philo, ils viennent souvent plutôt, et à l'école, on leur a bien fait comprendre qu'ils n'étaient pas forts en sciences, que ce n'était pas fait pour eux, justement, ça participe justement de cette fracture-là. Mais généralement, eux, ils sont plutôt dans l'optique, alors ce n'est pas tous des radicaux cyniques en disant que la science ne sert à rien, mais ils sont plutôt très méfiants d'entrée de jeu, peut-être parce qu'ils ont une expérience personnelle de difficulté avec les sciences, possible aussi, ils avaient un parcours psychologique qui m'échappe, mais ils viennent bien souvent avec une teinte, justement, plutôt de l'autre côté du spectre. Et ça me frappe assez fort comme étant assez indicatif du fait que ben, l'école les a formatés, et c'est pas que l'école, hein, toute l'infrastructure autour, les a formatés dans cette polarisation de la pensée où on a dit aux scientifiques qu'ils sont forts en sciences, la science elle est toute puissante, faites ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, et aux autres, ben, puisque vous n'êtes pas fort là-dedans, allez dans les trucs littéraires, et là vous allez entretenir une sorte de dire en fait oh, la science c'est pas si important que ça, et puis c'est pas, et puis ils prétendent connaître des trucs, mais en fait c'est qu'un discours parmi d'autres, etc. Ça. Et donc on a évidemment ces deux pôles qui à mon avis travaillent. Et au niveau individuel, alors tout étudiant n'est pas soit un cynique, soit un scientiste, évidemment, mais c'est des tendances générales qu'on observe assez clairement au niveau des étudiants, mais dans les départements, c'est pareil. Moi, je fréquente beaucoup de scientifiques, je suis en fac de sciences. Avant, je fréquentais beaucoup de philosophes en fac de lettres. Une animosité presque viscérale à l'égard des sciences en fac de philo, c'était assez standard comme position. D'ailleurs, les philosophes des sciences étaient mal mis parce qu'on était des philosophes d'opérette, quelque part, parce qu'on s'intéressait à un truc pas intéressant. Et à l'inverse, quand je suis en fac des sciences, là, j'ai de la chance à Namur que justement, on a un environnement très protégé où mes collègues scientifiques sont plutôt assez preneurs et assez en phase avec la philosophie. Mais ça peut être une exception, ça peut être un biais d'échantillonnage lié à Namur. Mais on a beaucoup de scientifiques qui, de facto, considèrent la philosophie des sciences et plus largement les études critiques sur les sciences comme une sorte de bavardage un peu ennuyeux dont il faudrait vite se débarrasser pour faire enfin des trucs sérieux. Et donc ça c'est clairement, je dirais, à mon avis, à mon sens, des indications qu'il y a justement cette polarisation qui travaille toujours un petit peu en arrière-fond. Ouais, donc dans mon expérience personnelle, la réponse courte, du coup, c'est oui. Oui, j'ai déjà ressenti très fortement. C'est parfois des indices un peu comme ça qu'il faut interpréter, mais ça a l'air d'être le cas en tout cas.
Bah écoute, merci beaucoup.
Je prends la suite. Effectivement, moi aussi, j'ai une question sur la méthodologie. Il n'y a pas une partie méthodologie où tu présentes ça et tu pourrais le dire, effectivement, c'est mon expérience de ça, c'est des anecdotes, c'est des discussions avec les collègues. Mais du coup, je trouve que ça manque un peu parce que quand on arrive à, comme tu le fais, aller vers une catégorisation bipolaire, on a tendance à peut-être générer des raccourcis. Et il y aurait peut-être un risque que tu fasses tomber ton analyse, les gens dans une boîte ou dans une autre, et que on n'arrive pas à refaire apparaître les nuances ou les contradictions qu'il y aurait là-dedans. Et je pense notamment à des moments où tu vas dire, ben, vous voyez, ça c'est une remarque de Fodor qui dit, vous voyez, il y a mon livre, il est là, il est difficile à trouver, et de l'autre côté, il y a tout Foucault, ça se vend
Ouais.
super bien, t'as l'air un peu de dire, bah oui, tout cette déconstructiviste, cette anti-science, elle vend en poupe, et ça, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des études qui
Ouais.
peuvent montrer qu'il y a un décalage, même dans le monde éditorial, dans la commercialisation?
Ouais. Ben, bonne question. Donc d'abord, pour revenir sur le premier point, sur la question de la méthode, c'est clair, hein, j'assume entièrement, c'est un article un peu tribune, hein, donc ce n'est pas un article scientifique, d'accord? Au sens, je dirais, propre du terme, et ce n'est pas un article, je dirais, très... C'est pas le genre d'article que j'ai l'habitude d'écrire, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que je trouvais intéressant aussi de le publier là, parce que je pensais que c'était aussi un journal où on pouvait prendre un truc un peu plus libre dans le format, donc ça j'assume complètement. J'ai essayé de faire en sorte que la méthode, ce ne soit pas que de l'expérience personnelle, parce que ça, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'ai donné beaucoup de sources et beaucoup de notes de bas de page, parfois c'est un peu illisible, je réalise un peu, avec, ben oui, ça a été défendu par ailleurs ici, il y a des études qui montrent que, et j'en mentionne vite fait une ou deux en passant, pour quand même donner un peu de substance, pour pas rester justement dans, c'est un ressenti personnel que j'érige en une sorte de vérité. Donc ça, il y a clairement quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, le format du papier qui a été choisi comme ça, fait que c'est pas très académique, et j'ai essayé de combler un peu, effectivement, ce manque-là. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas donc simplement de l'expérience personnelle. Mais du coup, effectivement, le piège de ça, c'est que j'utilise beaucoup des mots-valises, hein, c'est un peu l'enjeu. Je suis tout à fait conscient du fait que le mot scientisme aurait dû avoir une analyse, et il existe, hein, des analyses épistémologiques très sérieuses, un peu plus ennuyeuses, évidemment, du terme avec différentes variétés de scientisme. Pareil pour le pôle cynique, où là, je crois même que je dis dans l'article à un moment, je vais mettre là-dedans les relativistes. Alors les relativistes, il y en a plein en fait, hein, des faits, des descriptions, de la justification, il y a toute une panoplie. Je vais mettre dedans les postmodernistes, alors là il y a aussi toute une série, je vais mettre dedans les conspirationnistes, qui c'est pas les mêmes, hein, tout ça est un peu embrigadé dans ces deux pôles, parce que je voulais avoir un niveau d'analyse avec un grain très épais, bien d'accord, c'est pas finement analysé, ce qui fait que ça gomme des distinctions qu'il y aurait lieu de maintenir, ça c'est clair, dans une analyse plus avancée. C'est pour ça que je voulais vraiment me mettre à un niveau... ce que j'ai appelé les imaginaires sociaux, un niveau culturel qui ne peut être pour moi analysé, enfin, que sous ce prisme-là, dans le sens où ce qui a sans doute une effectivité culturelle dans les faits, dans la manière dont le débat public s'organise, ben, je pense que ce sont des grosses catégories comme ça. Je pense que ce sont des manières de penser qui sont pas toujours cohérentes d'une personne à l'autre. On va pas mobiliser le cynisme de la même façon, c'est très clair. Mais je pense que toutes ces dynamiques et ces petits indices qu'on retrouve dans les dynamiques institutionnelles, telles que j'ai parlé dans mon expérience personnelle, je pense qu'elles sont le fruit de cette polarisation très large, qui demanderait certes une analyse beaucoup plus fine que j'ai pas fait. D'accord, j'assume complètement le fait de ne pas l'avoir fait. Mais je pense que ça disait, à mon sens, c'était pas vide au sens où je pense que ça dit quelque chose de la manière dont le débat public est organisé autour de ces deux pôles. Et ça me paraissait être un niveau d'analyse, en tout cas suffisant, pour dire quelque chose de suffisamment significatif. C'est ça, pour que l'hypothèse explicative proposée ait une certaine plausibilité. D'accord? Donc, mais j'assume le grain très épais. Et c'est clair, et je pense que cette ambivalence, par exemple, entre donc, cynisme et scientisme, ben, c'est ce qu'on trouve sur les plateaux télé, d'accord? C'est vraiment une rhétorique de plateau télé, donc ou une rhétorique de tweet, ou une rhétorique de clash sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce genre de choses. Mais je trouve que, du coup, le grain est large, mais ça permet de comprendre la dynamique générale de beaucoup, commune, en fait, à beaucoup de ces lieux où la parole scientifique se déploie, à tort ou à travers, qui convergent toujours un peu vers cette polarisation. Quelles que soient les particularités des individus, s'ils sont plutôt relativistes de type 1, de type 2, de type 3, de type 7, ça n'empêche qu'étant relativiste, étant représentant d'une certaine façon de ce pôle, ben on va s'orienter dans cette direction-là. Donc voilà, j'espère qu'avec le grain d'analyse assez épais, j'arrivais quand même à dire un truc significatif. Mais c'est clair que j'assume le fait que, j'assume la responsabilité du fait que le grain aurait pu être plus fin dans un papier que je ne ferai pas, probablement pas sur une analyse plus fine de ce phénomène-là. Parce que simplement, je pense que ça implique beaucoup de sociologie, ça implique beaucoup, que je ne suis pas en fait, enfin, je ne suis pas sociologue de formation, ou d'autres disciplines, et là, ça m'échappe un peu, quoi.
Merci.
Oui, moi j'avais un peu, oui, parce que tu parlais des représentations, enfin voilà, des étudiants quand ils arrivent à l'UNIF, mais d'ailleurs en psycho de l'éduc, on étudie parfois quand les représentations continue à travers le temps. Je me demande dans quelle mesure, en fait, ça ne structure pas, même plus tard, quoi. Enfin, je veux dire, des gens plus tard dans leurs dernières années d'études à l'UNIF ou même plus loin. Parce que, voilà, en fac de philo, évidemment, c'était dans un cursus d'épistémologie, forcément, je veux dire, tu es dans une section qui est, enfin, un département ou un domaine qui est à la frontière entre la science et la philosophie, donc tu consommes beaucoup de science aussi. Mais je veux dire, si tu étudies un autre champ de la philosophie, à quel point est-ce que tu es exposé au discours scientifique? Et, enfin, je sais pas, c'est parce que bon, je fréquente un peu les facs de philo et j'entends quand même beaucoup de discours anti-science, de type cynique, comme tu l'appelles. Même plus loin, quoi. Donc, je ne sais pas. En fait, ma question, c'est un peu, si tu as l'air de dire, bah, oui, assez logiquement, que entre guillemets, la bonne position serait une position beaucoup plus nuancée entre les deux, hein, que les choses sont beaucoup plus complexes que ces deux extrêmes caricaturaux. Mais est-ce qu'on fait vraiment un si bon job pour l'enseigner dans les facs? C'est un peu ça que j'ai envie de dire.
C'est une bonne question et c'est une question assez difficile et c'est une question qui est aussi très, très culturellement contextuelle. C'est-à-dire que la situation des facs de philo en Belgique, elle est relativement particulière. Elle est le fruit de l'histoire qu'elle est. Elle est au croisement entre la philo française, puis elle est aussi influencée par la philo allemande, anglo-saxonne et ce genre de choses. Donc ça demande déjà. Il y a deux choses. C'est-à-dire que ça dépend d'abord de quel philo on est en train de parler. Parce que c'est vrai que la philo, ben, c'est comme la science, c'est une multiplicité de disciplines. C'est-à-dire que c'est comme parler de la science, ben oui, la physique et la psychologie sociale, c'est quand même deux choses très différentes qui tombent dans la science. Mais c'est pareil pour la philo, il y a philo et philo, que pour dire autrement. Et donc ça dépend si on tombe dans un département ben, très, je dirais, qui est pas vraiment dans la continuité de l'histoire de la philo. Il y a quelque chose que je rappelle quand même toujours à mes étudiants en sciences. C'est que initialement, philo et science, c'est la même chose. Pas tout à fait la même chose, mais il y a des grosses connivences. C'est-à-dire qu'à la base, la science, c'est la philo de la nature, en fait. Hein. C'est une approche philosophique du monde naturel. Je rappelle souvent à mes étudiants que Newton écrivait les principes mathématiques d'une philosophie de la nature, que Lamarck écrivait une philosophie zoologique. Donc, ils se présentent eux-mêmes comme philosophes de la nature. Et c'est plus tard que la frontière, que la fracture institutionnelle un peu s'est créée. Et donc, si on est dans un département qui est soit où la. Typiquement, c'est plus des départements anglo-saxons où on fait une philosophie qui est plus dans la continuité de cette histoire d'une alliance entre philosophie et science. On va pas voir ces résistances très fort. Par contre, si on va fréquenter plutôt une fac de philo, j'irais dire d'origine plutôt philosophie littéraire, hein, je mets des gros guillemets parce que j'aime pas ces distinctions-là, mais ce qu'on trouve beaucoup plus en France, qu'on trouve beaucoup plus en Belgique francophone aussi à certains égards, mais donc on est plus dans la discontinuité de cette histoire d'une alliance entre science et philosophie, ben là on a. À mon avis, c'est peut-être l'expérience dont tu parles, on peut avoir des exemples assez forts d'une certaine hostilité à l'égard des sciences, hostilité ou désintérêt, hein. Parfois ça peut prendre des formes différentes, ou ignorance, ou ce genre de choses. Donc ce n'est pas nécessairement un cynisme, c'est au moins souvent un désintérêt. Et je pense qu'il y a, alors là, je n'ai pas de raison particulière, chaque individu est le fruit de son histoire et de son enseignement, mais il y a des facs de philo qui enseignent une philosophie qui, effectivement, qui n'a rien à voir avec les sciences, et on peut. Et on peut, et ça je le défends, on peut faire de la philosophie sans s'intéresser aux sciences. Il y a de la philosophie qui n'est pas sur les sciences. Et ça, on peut faire de la philosophie morale, on peut faire de l'histoire de la philosophie, on peut faire de la philosophie politique, on peut faire plein de choses. Mais à mon sens, il n'empêche que si on veut être un philosophe un peu pertinent au XXIe siècle, ben, il faut s'intéresser un peu au monde en dehors de la tour d'ivoire du philosophe. D'accord? Il ne faut pas simplement cultiver Platon, Aristote et des philosophes morts depuis longtemps. Il faut un peu regarder le monde autour de nous. Et il se fait que le monde autour de nous, le monde social autour de nous, hein, le monde qui nous entoure, il est quand même fortement chargé scientifiquement. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés où la science, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, elle a une place importante. Et quand on parle, et même dans les crises sociales qu'on traverse, hein, que ce soit la crise climatique ou les crises sanitaires, c'est des crises qui mobilisent d'une façon ou d'une autre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les discours scientifiques. Et donc je pense que tout philosophe, par exemple un philosophe politique, un philosophe social, un philosophe du droit, bah, il doit au moins avoir un peu d'intérêt, je dirais, pour ce secteur de la pensée, ce secteur de notre vie sociale qui est important, qui est les sciences. Et donc tout philosophe qui par défaut aurait une sorte de posture, ah non, les sciences, c'est quelque chose dont je ne veux pas entendre parler, je pense que c'est pas une attitude intellectuelle très intéressante. D'autant que même si on fait de l'histoire de la philosophie, je prends l'exemple, je disais, si on fait un culte à Platon ou à Aristote, c'était des scientifiques, hein, de facto, la première physique, la première biologie, c'est chez Aristote aussi, dès que Platon était mathématicien. Enfin, donc ce serait même un peu bizarre de faire abstraction de ça. Mais je pense qu'il y a chez beaucoup de philosophes, c'est peut-être aussi l'expérience que tu as eue, il y a une certaine hostilité parfois ou de mépris ou d'indifférence à l'égard des sciences, qui est aussi une réaction en fait, parfois, parce que c'est vrai que les sciences accaparent un peu, il y a un monopole. de la rationalité. Hein. J'ai pris des citations de Hawking qui sont assez dramatiques dans ce sens, en disant mais les philosophes, vous êtes bien sympas, vous êtes des bavards, comme disait Stengers. Les vrais rationnels, les vrais qui portent le flambeau de la connaissance, c'est les scientifiques. Et donc, vous n'avez aucune prétention à nous dire quoi que ce soit. Je crois que c'est Feynman qui disait, je ne suis plus trop sûr, les philosophes des sciences sont aussi utiles aux scientifiques que les ornithologues pour les oiseaux ou un truc comme ça. Mais évidemment, quand on a ce genre d'attitude, il y a des philosophes qui en prennent ombrage hein, et qui, du coup, se disent d'accord, alors je ne parle pas avec vous, je suis désolé. Il y a parfois une animosité qui est donc le fruit d'une réaction à un discours scientifique qui est parfois un peu impérialiste, hein, et je pense, par exemple, je cite beaucoup Latour dans mon texte, Latour, il le dit lui-même, en fait, il a voulu un peu faire descendre les sciences de leur piédestal, parce que les sciences, de facto, qu'on le veuille ou non, et toutes les enquêtes de confiance le montrent, hein, sont encore le discours dominant, c'est le discours dans lequel on a le plus confiance. Quand un scientifique s'exprime, il a l'aura du scientifique. Quand un prix Nobel, en plus, alors là, il peut presque parler sur tout et tout le monde s'aplatit devant. Il y a une sorte de prestige de la science que, ben oui, certains philosophes en prennent ombrage, d'autant plus qu'ils ont la conviction, parfois un peu, je trouve, pas mal placée, mais légitime, de penser que la philosophie, c'est censé être la première et la reine de toutes les disciplines desquelles tout ont émergé. Donc il y a un peu cette idée de, on s'est fait déposséder par ces scientifiques de notre statut privilégié de rationnel. De rationnel. Et donc je pense qu'il y a tout ça qui est un peu entremêlé, qui explique le fait que dans des départements de philo, en Belgique, c'est vrai, il y a, et je l'ai vu de mes yeux, une grande animosité envers les sciences, mais qui fait qu'on peut parfois former des générations de nouveaux philosophes qui vont simplement, parce qu'ils sont formés comme ça, répliquer par effet culturel d'hérédité, comme ça, cette animosité pour les sciences. Et en fac des sciences, ça peut se faire pour la philo. Hein, je veux dire, donc une fois que cette polarisation est ancrée, ben, elle se perpétue quoi, quelque part.
On ne t'entend pas, Jean-Michel.
Oui, je
Ah
vous
oui.
disais, on a
Oui,
une question dans le chat. J'imaginais que Goulevent allait la poser, du coup.
parce que en fait, et je vais remercier en fait les personnes qui nous suivent. Si on peut faire un tout petit peu de popote interne, on enregistre ce podcast à une heure très différente de d'habitude. On est un vendredi matin à 10 h et on s'est dit, vu l'horaire, on va pas faire de live, il y aura personne. Et donc on a pas du tout annoncé le truc. Et là, on a quand même une quinzaine de personnes qui nous suivent simplement parce qu'on a mis le truc en route. Donc, merci énormément à vous. Je trouve que c'est vraiment, ça fait super plaisir parce que ça, c'était vraiment inattendu. Et en plus, avec des questions et des commentaires, je vais aller dans le sens inverse. Un commentaire de quelqu'un qui faisait une remarque, justement, il a fait une année de chimie à Namur et n'avait pas eu d'enseignement de la méthode scientifique ou de tellement de philosophie des sciences, alors que c'est central à la discipline. Et c'est vrai que enfin, ça fait écho à ce que tu disais. C'est quelque chose qui est en effet, enfin, je trouve problématique de finalement apprendre des choses, mais enfin. Travailler dans les sciences, parfois avoir une formation entière en sciences jusqu'au doctorat sans avoir vraiment jamais été confronté à comment on se pose la question de savoir comment on crée la connaissance. Mais on avait une question vraiment qui est, j'ai envie de dire, une vraie question. Donc, pour passer un peu de la science à la technologie, même spécifiquement. Donc, c'est une question de Mathias qui te salue au passage. Et donc, qui se demandait en fait, est-ce que tu as déjà vu une influence de l'intelligence artificielle? Et notamment des LLM type ChatGPT, etc., sur ce genre de sujet. Est-ce que ça a tendance, en tout cas c'est la question de Mathias, à encore exacerber cette polarité entre une posture un peu relativiste, enfin cyniste, comme tu le disais, ou scientiste, avec un peu un follow-up en disant que de toute façon, comme c'est quelque chose enfin, qui est en train de se répandre à toute vitesse. Il va falloir certainement apprendre à vivre avec ce genre d'outils. Et donc, du coup, est-ce que tu as une idée de comment faire et comment insérer de la demande épistémique là-dedans? Donc voilà, j'ai essayé de ouais, j'ai paraphrasé en étant encore plus long que le texte initial. Je suis désolé. Mais j'espère avoir été fidèle à la question d'origine.
Ok, merci beaucoup. D'abord, tout à fait. Petit commentaire, mea culpa pour l'horaire, ça c'est de ma faute. Voilà, j'ai provoqué ce changement et je remercie évidemment toute l'organisation d'avoir accepté de me recevoir à une heure qui est un peu différente. Et je suis désolé pour les personnes qui avaient l'habitude de suivre le live. Et du coup, c'est très chouette qu'il y ait, alors du coup, quand même des gens qui aient pu venir et poser des questions. C'est super. Donc, pour la question de l'IA, alors évidemment, j'en ai pas trop parlé dans l'article parce que j'ai fait le choix de laisser de côté la dimension technologie pour parler de la dimension science comme discours à prétention de produire des connaissances et donc une certaine représentation du monde, ce qui est très différent de la technologie qui est plutôt liée à de l'agir et donc à de l'action. Mais il n'empêche, du coup, pour rejoindre quand même dire quelque chose de la question, même si je ne suis pas un grand expert de ce qui se passe autour de l'IA, si la question, eh bien, comme je l'ai compris, est-ce que l'IA peut, on peut retrouver cette polarisation sur la question de l'IA, est-ce qu'elle a pu l'exacerber? J'ai tendance à penser que oui, hein, donc on retrouve exactement la même polarisation, c'est-à-dire qu'il me semble qu'avec l'IA et l'LLM en particulier et d'autres formes de l'IA, ben on va retrouver les deux discours, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on pourrait appeler les technophiles béats qui crient au miracle, hein, en disant ben voilà, maintenant c'est tout à fait miraculeux, et avec ça on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir révolutionner la science, on va pouvoir réenvisager des nouvelles manières de connaître, on va pouvoir solutionner des problèmes sur lesquels nos simples intelligences humaines butaient depuis très longtemps. Et d'autre côté, on va avoir les technophobes, on va dire, qui en fait, et je ne sais pas dans quelle mesure la polarisation se colle avec celle que je parle dans l'article, mais je pense qu'elle est quand même assez liée. Qui vont dire attention danger, je pense qu'il y a des dangers, mais donc attention danger, on est en train de jouer avec un truc qu'on maîtrise pas bien, qu'on connaît pas bien, c'est boîte noire, c'est ceci, c'est cela, et il y a des vrais dangers, hein, donc je dis pas que c'est, il faut pas faire attention à ça, mais donc en tout cas qui vont ju justement avoir la posture plutôt, ah mais non, ça c'est encore juste qu'une nouvelle déclinaison de ce scientisme triomphant qui va nous imposer au titre de connaissance, de moteur de production de connaissances, tout et n'importe quoi, on va encore nous imposer des choses qui ont des impacts tout à fait délétères pour simplement valoriser l'édifice de la connaissance comme tel. Donc je pense qu'on va retrouver une polarisation très claire qu'on voit de nouveau dans les médias entre ceux qui crient non, non, il faut bannir tout ça et les autres qui disent mais non, c'est l'avenir, il faut arrêter d'être anti-progrès, enfin, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et je pense que probablement, alors ça, je n'ai pas étudié ça, l'hypothèse assez naïve, mais à laquelle je devrais plus réfléchir, c'est que les partisans du pôle dont je parle dans l'article vont peut-être se retrouver dans le même pôle, c'est-à-dire que les scientistes béats vont peut-être tendance à être technophiles béats plus naturellement que l'inverse, quoi. Donc j'aurais tendance à penser, mais ça demande d'être un peu plus réfléchi. Et ça demande, et ça je rejoins la deuxième partie de la question, ben oui, il faut une réflexion épistémologique profonde sur l'impact de l'IA, et elle a lieu, hein. Il y a déjà en philosophie des sciences, des gros financements qui sont alloués, des ERC, des choses comme ça, sur l'épistémologie des LLM, dans quelle mesure ça va reconfigurer notre connaissance, notre manière de connaître, la méthode scientifique. Donc, ce sont des questions qui ont été emparées, dont se sont emparées, pardon, les philosophes des sciences, les épistémologues et les scientifiques eux-mêmes, hein, qui ont une réflexion épistémologique très forte pour savoir exactement. Bah, alors, moi, je pense aux LLM en particulier, si on s'intéresse aux modèles de type ChatGPT. Bah, par exemple, il y a toute une question sur le rapport à la vérité qui est très forte. On sait que ce sont des générateurs, entre guillemets, de baratin, hein, donc on dit de bullshit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas un. Il n'y a pas une guidance vers la vérité dans ce type de modèle. Ils ne sont pas guidés par une norme de vérité. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent dire du vrai, comme ils peuvent dire du faux, simplement qu'ils ne sont pas guidés par une norme de vérité. Et ça, bah, épistémologiquement, ça pose une question sur est-ce qu'on peut se servir de ces outils pour générer vraiment de la connaissance de manière autonome. Donc voilà, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je n'ai pas les réponses toutes crues à poser ici, parce que ce sont des recherches qui sont encore en cours. Mais donc oui, j'aurais tendance à penser la polarisation s'y retrouve. Et la demande épistémologique, elle est cruciale également dans ce genre de sujet, ça j'en suis convaincu.
Moi, j'aurais une question, du coup, quelle est la responsabilité des scientifiques, de la communauté scientifique dans la croissance de cette polarisation et notamment dans cette anti-science que tu pointes?
Oui, ah ben c'est une bonne question. Je pense qu'elle existe, cette responsabilité. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle est grande, petite, plus grande que pour celle d'autre. Je ne vais pas te donner des répartitions comme ça, mais il ne faudrait pas que les scientifiques pensent que ce n'est pas de leur faute ou que l'institution de la science ne pense que cette polarisation est quelque chose qui serait purement induite par les médias, ou alors souvent, ça c'est ce qu'on entend, j'en parle dans l'article, par les profanes eux-mêmes qui sont simplement sous-cultivés, pas curieux, et qui du coup devraient un petit peu s'éduquer quand même pour pouvoir comprendre, ce qui n'est quand même pas si compliqué. Donc je pense qu'il n'y a pas une responsabilité. Donc ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas une responsabilité individuelle unique. Donc on peut individuellement être responsable du fait qu'on ne s'intéresse pas et qu'on ne se cultive pas, ça bien sûr. Mais je pense que ce serait une erreur que de faire porter toute la question de l'anti-science ou du dogmatisme sur les épaules des individus, parce qu'en fait, ils arrivent dans un monde culturel avec cette polarisation qui leur préexiste, dont ils sont un peu les victimes. je pense, et il y a des structures institutionnelles et médiatiques et qui leur imposent cette polarisation. Alors parfois on peut s'en sortir, c'est pas un déterminisme fort, mais on peut la subir aussi. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est partagée. Le monde médiatique a clairement des choses à réfléchir sur la manière dont la science est présentée au public. Je pense qu'il y a des distorsions énormes. Le monde de l'éducation a des choses à réfléchir sur la manière dont on enseigne les sciences. Le monde politique a des... Mais évidemment, et j'y arrive à la question, le monde scientifique aussi. Il ne faudrait pas penser que la science est juste très bien comme elle est et qu'il faut, vous, à l'extérieur de la science, apprendre à bien la comprendre. Ça, je pense que ce serait une grosse erreur. Et alors, il y a deux niveaux. Il y a évidemment les scientifiques individuels. Évidemment, chaque scientifique individuellement peut se former à être un meilleur communicant, peut se former à être plus épistémologue et à donc ne pas tomber lui-même dans le piège d'être dogmatique, d'être scientiste ou au contraire cynique, ce qui est plus rare. Mais évidemment, il y a l'institution de la science. Et l'institution de la science, et là je parle de la politique scientifique, en fait, fondamentalement, je crois que malheureusement, à l'heure actuelle, sur le modèle dans lequel elle est pensée, on connaît tout ce modèle, surtout vous si vous êtes des internes, à la science, c'est un modèle de la course à l'échalote, du vedettariat, de la compétition, de la course à la publication, ça encourage la fraude, ça encourage le clash, ça encourage le buzz, ça encourage la recherche de la notoriété, et ça encourage du coup, ça produit quoi? Ben, ça produit des monstres. J'ai parlé un tout petit peu de Raoult, je voulais pas trop en parler dans mon papier, mais Raoult, c'est un pur produit de la science, donc c'est un pur produit de cette institution qui a créé cette personne. Tout ce qu'on a entendu il y a quelques jours là, sur la découverte des guillemets de signatures de vie sur une exoplanète, alors on dit oui, les médias ont travaillé, etc. Mais c'est des scientifiques aussi qui ont crié un peu victoire rapidement. Donc il y a un peu aussi un travail à faire du côté des scientifiques eux-mêmes, de ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Ça, c'est clair. Je crois qu'il y a une réflexion. Et il y a des réflexions dans la science. La science a conscience aussi de ça. Il y a beaucoup à l'université, c'est le cas de Namur, mais c'est le cas de beaucoup d'universités, une réflexion sur la pertinence des indicateurs bibliométriques, de cette course à l'échalote, du vedettariat, est-ce qu'on ne pourrait pas
Mais
valoriser.
même avant ça, tu cites Auguste Comte, qui fait du positivisme, un discours pro-science, qui devient une religion. Et on se disait que la science était justement ce qui allait nous émanciper et nous sortir d'un certain dogmatisme, et on voit que c'est pas, il y a une porosité à l'idéologie dans la science. Et ça, c'est un premier coup d'éclat en plein 19e siècle, quoi.
Oui, non, exactement. Donc là, qu'il y ait une porosité de la science et de l'idéologie, c'est évident. C'est quelque chose qui peut être une porosité bonne ou moins bonne. Hein, ici, dans l'exemple que tu prends, elle est plutôt moins bonne. Alors, il faut faire attention. Est-ce que. Donc, bon, Comte, oui, il est scientifique, il est philosophe des sciences aussi. Il est un peu comme fruit de son époque, il est un peu à cheval entre les deux. C'est clair que la posture positiviste est naturellement associé à une forme de scientisme. C'est pas automatique, mais c'est naturellement associé. En tout cas, c'est une pente assez glissante. Mais il n'empêche que ça reste d'abord et avant tout une posture plutôt philosophique, en fait. Parce que quand on réfléchit à l'heure de gloire ce qu'on a plutôt appelé le néopositivisme, donc ça devient ce début du XXe siècle, ces penseurs Carnap et ce genre de choses, à l'heure de gloire de cette posture qui était très scientiste, en fait, dans la manière de comprendre les sciences, et encore, ça se discute, c'était pas tous comme ça, les scientifiques de la même époque étaient plutôt ouverts à des spéculations, très hors science, c'était plutôt ouvert à des spéculations métaphysiques. C'est assez connu, par exemple, c'est pour la petite histoire, pour illustrer ce fait-là, que dans les années 20-30, en plein révolution relativiste et révolution quantique, donc c'est vraiment au niveau des sciences, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Donc c'est les Schrödinger, Heisenberg, Bohr, etc. Mais c'est assez connu que c'était plutôt les philosophes des sciences qui essayaient, ils se connaissaient bien, les philosophes des sciences et les physiciens de l'époque étaient en interaction très, très, très proche. Einstein aussi était en collaboration avec, ils avaient même des élèves, ils se parlaient beaucoup, ils avaient des séminaires ensemble, etc. Donc il y a vraiment une connivence très forte, mais c'est assez connu, assez bien documenté que c'était les philosophes positivistes qui ont essayé de tirer les scientifiques vers leur positivisme. Et les scientifiques ont résisté, en fait. Et il y en a beaucoup qui sont même au plus grand dam des positivistes qui auraient bien voulu que Bohr, par exemple, soit un positiviste. Mais sur certains aspects, il peut l'avoir été. Mais en même temps, c'est lui qui a permis de penser que la biologie échappe à la physique, qu'il y a une sorte de gouffre entre les deux. Il y avait de la spéculation métaphysique, il y avait de l'ouverture pour des choses qu'on qualifierait plutôt pas d'anti-science aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une beaucoup plus grande ouverture que cette
Mais en fait,
espèce.
même ce cercle de Vienne néo-positiviste, peut-être que c'est moins connu, mais c'est quand même bien documenté, s'intéresser par exemple à la parapsychologie et étudier des
Oui,
médiums, plus ou moins
exactement.
trop, en
Oui,
tout cas. Pas du
ce
tout
serait
considéré comme
l'erreur de
des sciences.
penser que c'est un monolithe. Oui,
Ouais.
bien sûr. Oui.
Et après, je pense qu'il y a aussi, alors ce n'est pas des exemples que tu cites forcément, mais des échecs d'entreprises scientifiques, comme on peut penser les rayons N. Ou les scandales autour de la parapsychologie, de la métapsychique, qui font qu'à un moment, des figures scientifiques sont ridiculisées et qu'on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas au-dessus des autres non plus.
Ben,
Et
Oui, et ça, je crois que c'est un excellent point. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été très fort reconfiguré, mais c'est beaucoup plus récent que ce qu'on pense, vers les années 50-60, enfin, ça commence peut-être un peu avant. Il faut savoir que là, il y a un gros changement, c'est qu'avant ça, on faisait pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'histoire des sciences. D'ailleurs, l'histoire des sciences, elle se faisait par les scientifiques eux-mêmes. Il n'y a pas de métier d'historien des sciences, surtout dans les années 40. On pense à Thomas Kuhn, souvent, qu'on connaît assez bien, comme c'est pas le premier, mais il fait partie de cette tendance-là. En fait, quand on a commencé à étudier vraiment l'histoire des sciences, ben on a mis les scientifiques devant leurs échecs répétés du passé, c'est-à-dire ça leur a fait gagner une certaine humilité de se dire, ben on peut penser que la science, quand on est, elle est là, elle nous préexiste, elle est formidable, elle dit le vrai sur tout ce qui nous entoure. Mais dès qu'on fait un peu d'histoire des sciences, on réalise qu'à chaque époque, les scientifiques ont pensé qu'ils avaient trouvé la vérité finale et que la science était super, mais en fait, c'était simplement pour que 50 ans plus tard, on réalise qu'ils avaient tort et qu'ils ont été ridiculisés, on s'entend. Le rayon N, c'est encore un peu différent, mais quelque part, ben, ce qu'on a pris pour étant la vérité, en fait, ben, c'était pas le cas, puisqu'en fait, on s'est largement planté. Pour des théories hyper importantes comme Newton et la gravité, par exemple, hein, qu'on a montré qui tenait pas la route après, où il y avait des choses fondamentalement fausses dedans. Mais donc là, il faut garder à l'esprit que la reconnaissance de l'histoire des sciences, c'est assez récent, des années 50, 60, où on a commencé à se dire, ben, en fait, c'est un fait historique que les scientifiques passent leur temps à se tromper. D'accord? Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Moi, j'enseigne l'histoire des sciences à mes étudiants, je leur dis, il faut pas être pessimiste, se dire, ben non, du coup, ça sert à quoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on s'échine, puisque de toute façon, on est appelé à se tromper encore aujourd'hui. C'est l'Akathos, hein, des Popperiens post-Kuhn, qui disait, toutes les théories scientifiques naissent et meurent réfutées, donc elles naissent déjà réfutées, et ça, c'est un fait scientifique qui est important à apprendre aux étudiants. Quand une théorie scientifique apparaît, on connaît déjà généralement ce qui la réfute, c'est-à-dire qu'on sait déjà les points qui vont montrer à terme qu'elle sera fausse. Mais ça, c'est pas grave, en fait. Ce qui est important de comprendre dans une dynamique épistémologique, c'est que c'est pas parce que les sciences sont pas destinées à délivrer le vrai avec un grand V qu'elles n'ont pas des vertus et qu'elles n'ont pas de vraisemblance. On peut récupérer un vrai un peu plus faible derrière, et qu'elles ne sont pas rationnellement notre meilleur pari sur ce qui se passe en ce moment, et qu'il n'y a pas une progression, etc. Ça. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir de ce constat d'échec. Ce constat d'échec doit nous enjoindre à une certaine humilité intellectuelle. Les scientifiques, faites attention, n'érigez pas les théories de 2025 comme des vérités absolues, parce qu'en 2050, on aura sans doute des théories meilleures qui vous disaient que les théories de 2025 étaient, si pas complètement fausses, au moins inexactes sur toute une série de points, mais c'est-à-dire fausses, en fait, quand même. Mais ça, donc, une certaine humilité intellectuelle, mais qui ne devrait pas être exploitée par les cyniques, parce que c'est souvent le cas, pour dire, ah ben donc, du coup, vous ne pouvez jamais prétendre à dire quoi que ce soit de vrai. C'est toujours cette ligne de crête, dont je ne parle pas beaucoup dans le texte, mais qui est la ligne de crête de l'épistémologie, de dire, la connaissance, elle est faillible, ça, c'est ce que l'histoire des sciences nous apprend. Et pas que l'histoire des sciences, mais elle nous le montre assez clairement, mais ça reste une connaissance. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de solide. Et c'est toute la difficulté de penser la solidité de ce que la science nous délivre, en dépit du fait qu'elle va peut-être se fracturer plus tard. C'est ça qui permet la ligne entre le scientisme, qui serait la solidité absolue, et le cynisme, qui dit qu'il n'y a aucune stabilité, aucune. Et je pense que l'histoire des sciences nous montre bien ça. C'est une bonne manière d'amener, en fait, d'amener cela. Donc tous les épisodes que tu mentionnes, comme le rayon N, c'est des exemples assez clairs. Que aussitôt qu'on a voulu être un petit peu trop sacralisé la connaissance, ben parfois on s'est humilié, ça c'est clair. Et je pense que le cas Raoult récemment, c'est un peu de cet ordre-là, hein, d'avoir proclamé une sorte de vérité, puis en fait se rendre compte, ben, que ça s'est dégonflé derrière, ben ça l'a fait pas très bien pour la crédibilité de la science, toute cette histoire. Mais c'est un épisode assez classique, en fait. Enfin, c'est triste quand il est accompagné d'une certaine arrogance. Quand on peut se tromper de manière sincère et humble, et ça, c'est ce qui se passe toujours dans les sciences, c'est pas grave en quelque sorte.
Oui, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, Goulevent, t'as pas une question, toi?
Pourquoi? Non, mais enfin, je réfléchissais à ce dont vous discutiez. Je pense que si, même sans aller jusqu'à des grosses théories scientifiques qui vont être qui vont être réfutées, s'écrouler, etc. De toute façon, en général, le travail presque quotidien de recherche, c'est de s'approcher un petit peu des choses, d'essayer de mieux comprendre. Et puis voilà, à mesure qu'on a enfin, un truc assez classique, c'est au début, par exemple, on est un peu limité en observation. Je vais dire des choses très générales pour que le maximum de personnes puissent s'y retrouver. Mais voilà, on est limité en observation. On commence à formuler une hypothèse, commence à imaginer comment les choses pourraient fonctionner. Et puis finalement, à mesure qu'on a plus d'observations, on se rend compte que ce n'était pas complètement vrai. Mais enfin, en même temps, ça a permis de commencer à ouvrir les portes et ça a commencé à avancer, etc. Au-delà des exemples de, entre guillemets, célébrités scientifiques médiatique éventuellement. Même ouais, le travail quotidien de recherche, c'est un peu s'approcher des choses par à-coups. Et donc, à mesure, petit à petit, on se rend compte que on a l'impression de reculer presque tout le temps parce qu'on passe son temps à trouver des trucs. Mais en réalité, au bout d'un moment, on se pose, on regarde derrière, on se dit, bah, on a quand même avancé, on s'est rapproché en zigzag, on a accumulé des données. Ces données montrent que l'hypothèse que j'avais formulée n'était peut-être pas la bonne, mais nous a permis globalement de nous rendre compte qu'on. Donc voilà, à nouveau, je suis un peu cryptique. J'essaie de dire des choses assez générales, justement, pour que
Ouais,
pas
ouais,
parler de que tout le monde puisse s'y retrouver.
ouais. Mais je crois que tu mets le doigt sur le point clé, en fait. Je crois que c'est une super bonne question. Tu as beaucoup d'humilité quand tu la présentes, parce que je crois que, en fait, tu mets exactement le doigt sur la difficulté. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une grosse différence entre ce que tu décris, qui est la science du quotidien, la science du laboratoire, d'accord, et la reconstruction qu'on en fait dans les manuels, dans le débat public, et l'image un peu d'Épinal, comme tu as dit, des célébrités, il y a eu Newton, et puis il y a eu cette expérience cruciale, ça l'a renversé, gnagnagna, qui est un récit, une narration, qui est à mille lieues du quotidien des scientifiques, de la pratique. Et je pense que l'enjeu, il est de montrer cette science-là. C'est-à-dire que le grand public devrait avoir conscience du fait que la vraie science, il n'y a pas cette narration, c'est pas cette reconstruction a posteriori avec ce récit héroïque des grands scientifiques, souvent masculins dans l'histoire, la manière dont c'est reconstruit, parce qu'il y a en plus des enjeux qui arrivent ici derrière. Je pense que l'enjeu, ce serait de montrer la pratique de laboratoire, sur le plan d'abord de l'exactitude de la représentation, mais en plus, tu mets le doigt sur un point important, même sur le plan de la méthode, pour montrer, tu l'as dit, en fait, la méthode, c'est beaucoup de laisser erreur, c'est beaucoup de l'imagination, c'est beaucoup faire feu de tout bois, c'est de la. On approche, on recule, on va. Et ça aussi, c'est à mille lieues de l'image qu'on nous véhicule, de la méthode scientifique qui avance comme un rouleau compresseur, et quand on l'applique, rationnellement, on progresse vers un certain idéal de vérité. La pratique de laboratoire, je pense que c'est ce sur quoi tu mets notamment le doigt. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Après, vous savez bien, quand vous écrivez un papier, vous reconstruisez une sorte de pseudo-méthode dans la narration du papier. Pour raconter une narration un peu plus jolie sur la pratique du laboratoire qui est plus chaotique et qui est plus mais qui restitue un peu plus de vérité sur comment la science est et le visage humain de la science. Tu l'as dit, on est cognitivement limité, on est limité dans nos observations, et on doit apprendre à tout cope, là, on doit apprendre, je peux faire mon Van Damme, mais à gérer, pardon, à gérer ses limitations, d'accord? Et ça fait partie du travail de scientifique qui est complètement occulté dans la manière dont on raconte la science dans ces grands récits miraculeux avec une méthode qui fait.
Mais moi mon rêve parfois, c'est enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça, et moi ce que je trouve important, c'est de mieux faire comprendre aux gens ce que c'est le quotidien, en fait, de la recherche. Parce qu'en plus, souvent, quand on en parle, quand on a l'occasion, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, ça les intéresse, et ça ouvre vraiment une compréhension des gens. Et moi, je ne sais pas quel serait le moyen, mais par exemple, je ne sais pas, dans les années 90, il y a eu une série, enfin, il y a eu plusieurs séries dans des univers médicaux, mais l'arrivée de la série Urgence, par exemple, ça a été une révolution, et on avait une façon différente. Alors, ce n'est pas un documentaire, Urgence, on est bien d'accord, hein. Enfin, n'empêche qu'il y a eu un intérêt sur peut-être la vie quotidienne des gens dans les hôpitaux. Et s'il y avait une espèce d'urgence d'un département de recherche ou un truc comme ça, je ne sais pas. S'il y avait quelque chose dans la pop culture qui intéressait les gens, non pas à la science comme un truc pour résoudre des grandes questions scientifiques, mais en fait comme quelque chose qui fonctionne au quotidien, où les gens. Et en fait, chaque étude, moi, je la vois un peu comme un point supplémentaire dans un grand nuage de points. Un nuage de points, il s'approche plus ou moins de. Et donc, du coup, la courbe qu'on fait passer pour fuiter le nuage de points, au début, on pense que c'est une droite, et puis finalement, on se rend compte que c'est une courbe, et c'est même un peu plus compliqué que ça. Et chaque étude, malgré le fait que derrière une étude, il y a souvent 2 ans de travail, des échantillons, des relectures, un peer review parfois sauvage. C'est un point dans un énorme nuage de points. Et c'est comme ça que j'essaie souvent Désolé, je parle de moi. T'es là pour te poser des questions. J'alterne.
Plus soi,
Il y a une nouvelle question dans le chat, en fait.
Avant ça, j'avais envie de te dire, Goulevent, tu crois pas que Big Bang Theory, c'est un documentaire
Mais
sur
c'est vrai que moi, ça, je trouve, je suis étonné, mais. Il y a un certain nombre de critiques légitimes qu'on peut faire à Big Bang Theory sur la représentation d'un certain nombre de personnages, notamment Penny, dont on se rend compte qu'elle n'a pas de nom de famille jusqu'à la saison 10 ou un truc comme ça. Mais n'empêche que malgré toutes les critiques légitimes qu'on peut faire, trouvez-moi une série vraiment mainstream où on parle de rédiger des proposals de recherche. Trouver des financements, se mettre bien avec le doyen de sa faculté pour enfin, l'air de rien, bon, voilà, un truc peut-être plus, mais oui, c'est pas faux en fait.
Il y a des choses qui existent, mais enfin, à ma connaissance, en série, je ne connais pas, mais en roman graphique, il y a des trucs un peu là-dessus, je crois. Je peux peut-être retrouver certains trucs qui montrent un peu les dessous de l'univers de la recherche, notamment la vie en thèse et ce genre de choses. Donc, il y a parfois des petites ressources, mais je ne crois pas que c'est mainstream au sens de ça rentrer dans la pop culture aussi fort que Urgence ou Big Bang Theory, mais ce serait super. Ce serait une bonne manière d'aller voir la réalité des laboratoires. Ouais.
Oui, bah, comme on est sur un podcast sceptique et zététique, je voulais quand même te demander vers la fin de cet entretien, voilà, par rapport à la communauté sceptique, bah, je pense qu'un des reproches qui a été fait souvent, c'est qu'on était plutôt du pôle, enfin les sceptiques ont, et en tout cas, été perçus comme étant du pôle scientiste, et puis il y a eu beaucoup d'appels ou de demandes, voilà, à plus de nuances. Voilà, je ne sais pas si tu voulais réagir là-dessus, ta perception à l'heure actuelle de la communauté ou
Oui.
de comment est-ce qu'on essaye d'introduire de plus de nuances et comment ça se fait. Enfin, voilà, un peu.
Écoute, moi, j'ai pas. Alors, je connais sans doute pas suffisamment bien la communauté sceptique, donc je la regarde de l'extérieur avec beaucoup d'intérêt, parce que et je trouve, parce que mon intérêt s'était initié quand j'avais fait un papier il y a quelques années sur la zététique. C'est comme ça que j'avais commencé à m'intéresser à cet univers-là que je connaissais assez mal, mais donc je le regarde surtout de l'extérieur. Je trouve dans la communauté sceptique évidemment beaucoup de valeur, sinon je ne serais même pas là aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a un vrai travail de proximité et de communication scientifique qui est souvent pas fait par les institutions scientifiques, et donc je trouve ça admirable que des personnes ou des associations le fassent à titre individuel ou se rassemblent pour le faire. Et je pense que donc c'est quelque chose qu'il faut louer, qu'il faut encourager. Qui est une association avec le scientisme? Alors moi, je consomme pas énormément de contenu sur ces questions-là, mais c'est clair que dans beaucoup, ça ne m'a pas frappé. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir vu ou vraiment dire ah, c'est comme ça, taisez-vous. Mais ça m'est déjà arrivé d'en croiser. Oui, ça m'est déjà arrivé de voir des associations où je me dis ben là, il y a peut-être un peu une dogmatisation. La science, c'est comme ça, et donc tout ce qui n'est pas d'accord avec vous, taisez-vous. Ou alors, parfois, quand on outrepasse les frontières de la science, j'ai vu, je ne sais plus c'était où, ça n'a pas d'importance, je ne vais pas citer des chaînes ou des noms, ça n'a pas. Mais par exemple, quand on arrive à discuter la science versus l'épreuve de l'existence de Dieu ou des choses comme ça, ben là, je pense qu'on passe un cap qui est on ne fait plus de la science, on fait autre chose et on peut faire autre chose. Mais le danger, et ça, c'est juste un danger auquel je dirais qu'il faut toujours être attentif, les zététiciens, les sceptiques, les scientifiques et les philosophes des sciences comme moi, toujours être attentif, c'est de ne pas tomber dans la dogmatisation, quoi, c'est de ne pas tomber ben oui, dans cette espèce d'extrême de considérer qu'au nom de la science, on peut faire dire à la science des choses qu'elle n'a pas en capacité de dire ou qu'elle n'a pas vocation à dire. Et ça, je crois que c'est un danger auquel il faut toujours se prémunir et je ne pense pas l'avoir observé dans la sphère zététique ou sceptique de manière très présente, mais je dirais juste c'est un danger auquel qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et si on tombe dans ce danger-là, à titre individuel, c'est pas grave, mais le danger, ça a été enfin, j'ai un collègue épistémologue, Hanson, qui a beaucoup travaillé de ces questions-là, c'est tendre le bâton pour se faire battre, c'est de nouveau, en fait, se prendre à son propre piège. C'est-à-dire que si on veut défendre la science, c'est ça l'enjeu, hein. Si l'enjeu, c'est de défendre la science ou la démarche scientifique, hein, plus grosso modo, en étant scientiste, en fait, on lui fait plus de tort. Je pense que c'est clairement un mauvais calcul. Et donc, je dirais que c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, je sais pas comment l'expression qu'il faut mentionner ici. Je pense que du coup, ça c'est pas efficace en fait. Et que la meilleure manière de défendre, il y a une manière de défendre la science comme ça, c'est ce que je pense moi personnellement, comme un discours qui est une sorte d'autorité épistémique, hein, pas morale. Hein, donc, c'est-à-dire une sorte de prétention à pouvoir dire des choses proches du vrai sur le monde qui nous entoure, qui est assez particulière de la science, qui fait sa force. Donc je pense que sa force n'est pas usurpée. Je pense qu'il y a moyen de défendre ça sans être scientiste, sans devoir arriver dans une sorte d'absolutisme, de toute puissance, et surtout de démarche rhétorique qui est, mais du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, taisez-vous, quoi. Ça, je pense que c'est pas du tout le bon calcul.
Voilà, nickel. Pour moi, ça peut être un peu le mot de la fin, sauf s'il y a une question vraiment brûlante. Ça. Très bien. Dans le chat, ils sont en train d'imaginer une future série TV à faire sur
Parfait. Bon,
la
il y a peut-être quelque chose qui va se lancer.
Ah non, mais futur projet pour le comité para, ce serait vraiment chouette.
Très bien, bah écoute.
Après, pour rendre amusant et attractif un grand proposal, ce serait un effort scénaristique Ouais.
Pourtant. Ouais, c'est clair, ouais.
Très bien, bah écoute, merci Olivier. Je ne sais pas si on peut te trouver sur Internet. Il y a des endroits où tu es sur les réseaux sociaux ou si les gens
Non,
voudraient te.
pas spécialement, non, j'ai pas de chaîne, pas de choses comme ça.
Très
Si vous
bien.
voulez mon nom, vous trouverez peut-être certaines conférences, certains papiers, si ça vous intéresse, mais non, pas de choses à promouvoir particulières.
Ouais, bah sinon, je rappelle pour les auditeurs que ton article est sur le site de la revue Scepticisme Scientifique. Et si jamais vous n'êtes jamais allé sur le site de la revue, les articles sont en accès gratuit, hein, il ne faut rien payer. Parfois, on me pose la question, c'est combien pour accéder à un article, mais l'article est téléchargeable gratuitement, donc faut pas, ne vous privez pas, allez lire les articles dont on parle. Hein. Très bien, bah écoute, encore merci. Et puis.
À vous. Et merci pour les questions, et merci pour le live, et merci d'avoir accommodé l'horaire encore. Désolé pour
Pas de
les
souci.
changements.
À la prochaine, Goulevent.
À la prochaine. Au
Olivier,
revoir,
au revoir,
merci.
René. Au revoir, Olivier.
Bien revu. À bientôt.
Bon.